Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron.
Bonjour tout le monde, 11h02, nous sommes ravis d'être en votre compagnie et de passer cette matinée avec vous. Bonjour l'ami Jean-Luc.
Bonjour dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Fin de matinée évidemment. Gros sommaire évidemment aujourd'hui aussi, comme d'habitude, avec déjà plein de sujets qui vont plus que nous intéresser. On va commencer par les ralentisseurs. Bam, on y va.
Ouais, exactement. Est-ce que le Conseil d'État va enfin trancher pour être clair, est-ce que en France, les ralentisseurs installés de façon totalement anarchique vont être retirés ou pas, ou remis simplement aux normes?
Oui, alors ça, on va savoir ça, et on aura quelqu'un qui se bat contre ces ralentisseurs hors normes depuis très longtemps, nuit et jour, exactement. Et on aura le plaisir de le recevoir. L'essai de la semaine nous fera prendre le volant d'une voiture dont les noms, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, ressemblent plus à des romans qu'à des noms de voitures. Mazda MX-30 R. EV.
Ouais, un véhicule unique au monde. Pourquoi ? Parce que c'est un hybride rechargeable qui promène un moteur qu'on avait oublié depuis déjà un petit moment, un moteur rotatif. Mmh. Voilà, je vous explique tout à l'heure.
Nous allons aussi recevoir le directeur général de la marque Citroën et directeur des ventes du marketing de Stellantis pour la fameuse Citroën IC3.
Exactement, un véhicule français électrique qui va être vendu bonus déduit à moins de 20 000 euros.
Wow.
On ose y croire, c'est-à-dire moins cher que les véhicules japonais. On essaiera tout à l'heure de torturer Thierry Koskas pour qu'il nous livre le secret de cette IC3. Comment arrive-t-on à proposer un véhicule avec des vraies performances, parce qu'il y avait une autonomie de 320 km, une puissance de 110 chevaux, enfin bon voilà, une vraie voiture électrique
française,
qui sera à moins de 20 000 euros, bonus déduit.
Voilà, puis on verra avec lui, en partie faite en France, mais pas encore complètement, puisque les batteries restent...
Oui, les batteries sont
pour
pas françaises.
Mais ça va venir. On va parler pneus, parce qu'à partir du 1er novembre, c'est-à-dire dans pas longtemps, dans 9 jours en gros, pneus d'hiver, va falloir mettre les chaussettes chaudes.
Hein. Exactement, on va refaire une petite piqûre de rappel sur ce qu'est la loi hiver, la loi montagne, pardon, pas la loi hiver, évidemment. Et puis, vous verrez que comme il y a beaucoup de choses qui ont changé, même avec Dominique Stemfel qui sera avec nous tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, je lui ai dit, mais alors attends, on en est où? Parce que finalement, il y a eu des ordres, des contre-ordres. Est-ce qu'on sera verbalisé cette année? Tiens, si on n'a pas les équipements adaptés pour circuler dans les régions où ils seront obligatoires.
Et puis la dernière partie de l'émission sera consacrée à deux anniversaires. L'un sympa, l'autre moins.
Ouais, un super agréable. Ouais. Cette semaine, c'était les 60 ans de sans doute la voiture la plus célèbre du monde, l'Aston Martin DB5, qui a été popularisée.
007?
Par 007, et vous allez voir, on aura un monsieur avec nous qui va nous expliquer comment et pourquoi 007 a roulé dans cette fameuse Aston Martin. L'histoire est assez cocasse.
Et puis les 20 ans des radars.
Les 20 ans des radars automatiques.
Voilà. Ça, on n'aime pas.
On soufflera pas de bougie.
Non. Pourtant, on va faire attention au feu.
On fera un bilan. Est-ce que c'est toujours aussi efficace les radars automatiques? Parce qu'ils ont eu une vraie efficacité, mais est-ce que c'est encore le cas?
Surtout qu'avec Waze et compagnie, on sait où ils sont maintenant. Donc voilà, on va en parler concrètement. Allez, vous êtes les bienvenus, vous le savez, puisqu'on parle auto, c'est avec vous et surtout avec vous. 0826 300 300, on a notre ami Jordan qui vous accueille au standard. Merci à Bastien de réaliser cette émission. J'adore Bastien, surtout quand il a ce beau sourire du samedi midi. Et puis nous avons aussi la possibilité, et vous avez été très nombreux cette semaine, plus ça va, plus on reçoit des mails. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet et vous nous posez votre question. Moi j'adore, en lisant vos mails, c'est des petits mots gentils que vous mettez. Ça commence par bonjour l'ami Jean-Luc, bonjour dame Laurence, on adore votre émission. On va pas se priver de dire qu'on adore. Voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on vous attend.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Securitest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr.
Et puis évidemment, vous êtes déjà présents sur la page Facebook de Sud Radio. On vous embrasse, et Stéphane, le troisième co-animateur, est déjà avec nous sur Sud Radio, la page Facebook. Bonjour Thierry Modolo.
Bonjour Laurence Perrault, bonjour Jean-Moreau.
Bonjour Thierry.
Jean-Luc.
Ouais. Bon, c'est pas grave.
Bon Thierry, on
va
pas...
Fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable.
Voilà. Fondateur d'une sorte de croisade pour partir en guerre contre les ralentisseurs illégaux. Quelques chiffres, un peu moins de 500 000 ralentisseurs en France. Thierry, à chaque fois je vous le demande, mais j'adore quand vous me répondez, combien illégaux à peu près?
Allez, on va prendre une marge de manœuvre. 99,9%.
Ah ouais, c'est ça. On rappelle ce qu'est un ralentisseur légal.
Oui, ça ira plus vite. Alors, voilà. En fait, un ralentisseur, on va dire, qui est conforme à la réglementation, c'est un ralentisseur qui est implanté sur dans une ville, déjà, dans une agglomération, c'est-à-dire entre les panneaux d'entrée et de sortie de ville. C'est un ralentisseur qui est implanté sur une voie où il passe moins de 3000 véhicules par jour. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un ralentisseur qui est implanté sur une voie où il n'y a pas de transport en commun, quel que soit le type de transport en commun. C'est un ralentisseur qui est implanté dans une zone 30, et pas une zone 30 juste définie de la taille, de la dimension du
ralentisseur.
C'est la nouvelle mode.
Ouais, et souvent, il y a le panneau limite 30, on va dire 50 mètres avant le ralentisseur, et fin de zone 30 juste après le ralentisseur. Donc ça, c'est illégal, on est d'accord.
Exactement, oui, c'est complètement farfelu, pour pas dire autre chose. C'est un ralentisseur, par exemple, qui n'est pas implanté à proximité d'un centre de secours, donc pompier, hôpital, clinique, voilà, ce genre de choses.
À côté de chez moi, c'est juste devant l'hôpital, les ralentisseurs. Ouais. Comme c'est pour bien secouer les malades qui arrivent avec le SAMU. Ça les réveille.
Oui, c'est pareil à l'hôpital de Toulon. Il y en a, je crois, c'est 6, rien que sur l'artère principale, et il y en a tout autour. Alors, c'est formellement interdit. Il y a une certaine logique à ça aussi.
Il y a la taille aussi, la hauteur.
C'est pas implanté près d'un virage ou dans un virage. Ça, c'est la grande mode aussi, c'est de l'implanter en plein virage qui est très dangereux, etc. etc.
Bon, okay. Alors, ça fait des années que vous battez contre
après,
ça.
Il y a la hauteur.
Voilà,
il y a la hauteur.
Ouais, ben, 10 cm normalement. Ah, ouais.
C'est combien la hauteur, Maxime?
Oui. Alors, 10 cm et 4 mètres de long, mais ça, c'est uniquement si on a le droit de le mettre, hein. Attention.
Voilà.
Et aujourd'hui, il y en a un qui a été implanté pas loin de chez moi. Il fait 52 mètres de long. Il est sur une largeur de 3 voies. Il fait 20 cm de haut. Autant vous dire ce qui a dû coûter à peu près 80 000 euros. Et avec tout cet enrobé, on aurait pu très bien entretenir des routes qui, pas très loin, sont en piteux état.
Oui, parce que, tiens, je fais une petite parenthèse avant qu'on en arrive au vrai sujet du jour, c'est que ces ralentisseurs, ça a coûté, combien vous avez calculé? Plus de, pas loin de 4 milliards d'euros, en fait, la totalité
non,
des
ralentisseurs.
7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, et on nous dit...
2009, 2010 et aujourd'hui.
D'accord. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour réparer les routes. C'est absolument hallucinant, quoi, que des municipalités ou des collectivités locales construisent sur la route des choses alors qu'ils n'ont pas d'argent pour boucher les trous juste à côté.
Alors, il y a ça, et puis il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'année dernière, et l'année d'avant aussi d'ailleurs, nous avions des ministres des Transports, M. Djebari, puis aujourd'hui M. Beaune, qui pleuraient misère devant les caméras en disant « Mais comment on va faire pour entretenir ?» Je crois qu'il y a 15 000 ponts qui partent dans tous les sens.
Ouais.
Et ils cherchaient, je crois que c'était quelque chose comme 1 milliard d'euros pour pouvoir les entretenir et les remettre en état pour qu'ils ne s'écroulent pas, tout simplement.
Mais vous savez quoi, Thierry?
Je viens d'en trouver 7.
Ouais,
et je peux lui en trouver 35 si on ajoute à ça les 73 ou 74 000 ronds-points dont la grande majorité sont totalement inutiles et faits pour se faire plaisir par les élus. Et là, on est à 35 milliards d'euros quand même sur 15 ans.
Thierry, on va essayer d'être le plus juste possible.
Bon,
les ralentisseurs, ça fait ralentir les voitures, ça on est d'accord, mais ça sauve, jusqu'à preuve du contraire, pas beaucoup de vies dans l'année.
Jusqu'à présent, on n'en a jamais trouvé un qui a sauvé une vie. Par contre, on en a trouvé qui ont ôté des vies, ou même des piétons, et qui ont créé des accidents très très graves, puisqu'on a à l'association des dossiers avec des personnes qui ont des handicaps à 80%.
Alors, juste une chose, on n'en a pas qui ont sauvé des vies, mais ça, on ne peut pas le calculer, parce qu'on ne sait pas, la voiture qui arrivait à fond, les ballons, elle a ralenti à cause de ça, peut-être qu'elle n'aurait pas ralenti, peut-être qu'il y aurait un accident, mais on ne peut pas le prouver, donc je vous suis complètement, sauf là-dessus, où on ne peut pas savoir vraiment.
Oui.
Alors, le problème, Laurence, c'est qu'on a quelque chose de très bizarre aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vient se plaindre au niveau de l'association, notamment pour les nuisances, parce que ça représente aujourd'hui à peu près 85% des dossiers, on a souvent des personnes qui habitent là depuis très longtemps, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et la première question qu'on leur pose, c'est est-ce qu'il y a eu, sur les 10, 15, 20 dernières années, des accidents? Et à chaque fois, c'est non, il n'y a jamais eu d'accident. En fait, les élus, ils implantent ça pour répondre à une demande. Alors, c'est facile, c'est de l'argent public, tout le monde sait qu'il n'est pas cher, il suffit de sortir le chéquier et puis en avant. Et puis, les élus ben, balancent 15 000, 50 000, 100 000 euros pour un ralentisseur, à tel point que ben, aujourd'hui, vous avez des gens qui vendent leur maison, on a deux adhérents de notre association qui vendent leur maison à perte parce que la maison est devenue invivable, de 4h du matin à 22h30.
Ouais, c'est sûr que quand il y a des camions qui passent sur des ralentisseurs, ça fait un bruit infernal. Bon Thierry, sinon il y a eu déjà, parce que ça fait un moment que vous êtes allé en justice pour essayer de faire entendre raison à nos élus, ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu des jugements même en appel qui ont été, on va dire, contre vous, tiens, pour simplifier. Là vous avez saisi le Conseil d'État, il y a eu un rapporteur qui a émis plusieurs solutions, c'était le 4 novembre, donc on est dans l'actualité. Vous en attendez quoi en fait, du Conseil d'État?
On attend du Conseil d'État que les juges disent le droit et sifflent une bonne fois pour toutes la fin de la récréation. En théorie, le décret a été créé en 1994 par Charles Pasqua, qu'on ne peut pas taxer d'être un fou furieux, qui a été peut-être un des meilleurs ministre de la justice et de l'intérieur qu'on ait eu sur les 30 ou 40 dernières années. Et Charles Pasqua a créé ce décret pour éradiquer les ralentisseurs des routes qui, déjà à l'époque, et il n'y en avait pas beaucoup, vous pouvez le confirmer, puisque comme moi vous conduisez depuis très longtemps, commençaient déjà à être un peu implantés de manière anarchique, construits de manière totalement dangereuse. Donc le but était de les éradiquer. Or, entre-temps est passé le CEREMA, qui s'appelait Certu à l'époque, cet organisme d'État, payé par nos impôts, a créé des guides très farfelus, qui n'ont aucune valeur, et dont le but est uniquement d'aider et de conseiller les élus à contourner la loi, ce qui est assez cocasse. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, on se retrouve avec des ralentisseurs de partout, construits n'importe comment et implantés n'importe comment. Et donc, ce qu'on attend du Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État nous dise, voilà, la loi, définitivement, c'est ça. Alors, la rapporteure publique a émis trois pistes. Oui. La première, que le Conseil d'État dise, on peut faire ce qu'on veut sur les routes, implanter tout et n'importe comment, et tant pis si ça crée des accidents, advienne que pourra. La deuxième, qui est de casser les deux arrêts de la Cour d'appel de Marseille, puisque c'est ces arrêts que nous avons attaqués devant le Conseil d'État, parce que elle a jugé que ces arrêts n'étaient pas motivés du tout, et que la Cour d'appel n'avait pas défini, et c'est là que ça devient intéressant, la géométrie de ce que les élus appellent des plateaux traversants, des plateaux...
D'accord, donc vous voulez que les plateaux traversants ils soient assimilés, il faut faire un peu plus vite.
Oui, il faut qu'on accélère.
Et le dernier point, qui est de dire tout type de ralentisseur doit être conforme au décret.
Voilà, bon.
Et
c'est,
là,
c'est dans ce sens-là, en fait, qu'elle est le rapporteur.
Absolument. Elle D'accord. a dit que c'était la meilleure des solutions à adopter par le bon. Conseil d'État.
Et, du coup, et c'est quand la décision du Conseil d'État?
Ouais.
Alors là, l'arrêt du Conseil d'État devrait tomber d'ici, on va dire, 10 à une grosse dizaine de jours.
Bon, ben on vous rappellera.
Bon.
Allez, hop là, Thierry, on reprend rendez-vous. On vous embrasse,
Thierry. Merci Thierry, à bientôt, au
revoir. Merci d'avoir décrypté ce sujet.
Merci à vous, à très
Merci.
Bientôt.
Thierry Modelo, fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable, était avec nous sur Sud Radio. On parle vrai, même quand on parle auto. Allez, à suivre, on parlera avec vous. Tout ça est une histoire de parlotte, parce que vous avez la première question qui arrive au 0826 300 300. Faites comme Eric, que l'on va accueillir dans moins de 3 minutes. Appelez-nous et posez votre question en direct.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron.
Et nous continuons évidemment avec vous, puisque on parle auto, c'est aussi, vous le savez, votre rendez-vous. 0826 300 300, on file au standard. Eric est avec nous, bonjour Eric.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc.
Bonjour
Merci
Eric.
De m'accueillir.
Ah bah avec plaisir, vous appelez d'où?
Eh ben de Saint-Martin-d'Hères, à côté de Grenoble.
Ah, très bien, l'Isère, pays cher à
voilà.
Bastien. Ah, vous êtes né là-bas, Bastien. Bastien nous dit qu'il est né là-bas. Ah ben voyez, comme ça.
Voilà. On vous écoute. Le monde est petit.
Ouais. On vous écoute, Eric.
Alors, je vous remercie d'avoir accepté mes questions sur les carburants. Alors, moi, j'ai une Logan MCV d'origine Flexfuel. Donc, de temps en temps, je roule avec le plein complet. Et de temps en temps, je mélange les deux carburants avec de l'E10, comme souvent on l'explique Jean-Luc.
Mais pourquoi vous mélangez les deux carburants ?
C'est ça. Alors, quand je fais de l'autoroute et de la longue distance, je me mets en bioéthanol, c'est économique. Par contre, mon véhicule, au bout de 13 ans, là, depuis pas mal d'années, si je fais que de la ville avec plein d'arrêts de feu rouge, je suis très bas dans le tour minute, ma voiture, elle se met en mode dégradé, j'ai le défaut moteur. Donc, dans ce cas-là, souvent, je repasse au E10, à l'essence, ou alors je fais les deux mélanges.
En fait, c'est que vos injecteurs, ils ont dû s'encrasser avec le temps à rouler au super-éthanol. En fait, c'est juste ça. Donc, ce qu'il faut, c'est... Alors, de temps en temps, je sais que ça va vous faire mal, hein, mais si vous faites un bout d'autoroute à 130 km/h, vous mettez un coup de Super 98 dedans, vous n'avez pas besoin de faire...
Ce que je fais, c'est que de temps en temps, voilà, j'utilise un autre carburant, ça nettoie la voiture et j'ai plus du tout de défaut moteur.
Voilà, vous pouvez acheter un petit... vous allez dans un centre auto et vous achetez un produit nettoyant injecteur et ça lui fera du bien. Et
je pour peux les néophytes, pourquoi ? Pour les néophytes, pourquoi parce que le 98, par exemple.
D'abord, l'éthanol, ça lubrifie un peu moins bien que l'essence. Oui, l'essence, c'est pas un très bon lubrifiant. Hein. Le diesel, ça l'est beaucoup mieux. Mais au bout d'un moment, qu'on n'utilise que de l'éthanol, d'abord, l'éthanol, vous savez, il a une affinité pour l'eau. On le sait, quand on mélange du pastis avec de l'eau, ça se mélange bien. Même du whisky avec de l'eau, ça se mélange bien. Donc, il a tendance à absorber de l'eau. Et l'eau, on sait que ça crée de la corrosion. Donc, ça risque de créer un peu de corrosion. Et ça fonctionne. Un injecteur avec un tout petit chouille de corrosion, ça fonctionne un petit peu moins bien.
Ouais, voilà. Moi, je pensais que ça venait du pot d'échappement. On a une sonde dans le pot d'échappement qui détecte, détecte la pollution.
Et effectivement, alors, ça détecte pas la pollution.
Si je mets du 98, tout de suite, le défaut moteur s'en va.
Ouais, en fait, c'est que vous avez une sonde lambda à l'échappement. Alors sur les Dacia, cette sonde lambda qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, c'est vrai qu'elle souffre un peu à rouler à l'éthanol. Donc c'est ça en fait. Là, ça lui décape un peu le museau à la sonde lambda quand vous roulez au super. Donc c'est bien de rouler de temps en temps au super. Ce que j'allais vous dire, c'est aller acheter un produit sérieux. Je vais vous redonner la marque Sphertech, c'est sérieux. D'accord. Vous achetez un produit, il y en a spécifique pour l'éthanol. Vous allez voir, moi je l'ai fait sur ma voiture. D'un coup, vous allez trouver une voiture complètement différente. Elle va être plus douce au fonctionnement et vous n'aurez plus ces petits à-coups que vous pouvez avoir à bas régime quand vous roulez en ville.
D'accord.
Exact.
Autre question,
Eric. La question que je m'étais posée, c'était qu'en fait, quand on mélange les deux carburants, parce qu'avec ma femme et mes enfants, on a d'autres Dacia, Logan et Sandero, quand on mélange du bioéthanol, du E85 avec le E10, est-ce que, parce que vous n'en parlez jamais, est-ce qu'il y a un carburant qu'on doit mettre avant l'autre pour qu'il soit en dessous dans le réservoir ?
Non, mais ça se mélange très bien.
L'ensemble se mélange.
Oui, non, ça se mélange très bien. Ça se mélange très, très bien. Il n'y a, aucun souci. Ouais, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Bon, faites attention.
On peut mélanger avec du 98, par exemple, de Total Excel.
Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il n'y a aucun souci.
Je voulais vous demander une dernière chose. Ouais. C'est est-ce que sur l'Excelium, vous aviez des informations sur le fait, moi, quand je fais mes relevés sur un plein entier en faisant une moyenne, un calcul, je tombe à 10 à 15% de consommation en moins.
Oui,
pourquoi ?
Oui, pourquoi ? Parce que vous avez des additifs dans ces carburants-là, c'est des carburants très additivés. Alors déjà, vous avez un taux d'octane qui est supérieur, 98 par rapport à 95. D'accord. Donc déjà, votre rendement moteur va être un tout petit peu meilleur. Donc le moteur consommera un peu moins, puis vous avez des additifs anti-friction, vous avez tout un tas de... C'est ça qui fait la différence entre un carburant standard et un carburant, on va l'appeler premium, c'est qu'il est très additivé, donc effectivement, il peut, sur certains modèles, faire baisser vraiment la consommation, sur d'autres, c'est un petit peu moins sensible.
D'accord, ouais. Et c'est tous les 98 qui sont très bons, même ceux qu'on trouve en grande surface. Il y a aussi Esso et d'autres qui ont des produits premium parce que le Total a l'air d'être très bon. Enfin, moi, j'utilise beaucoup de Total parce que Total est à côté de chez moi.
Mais puis il est moins cher. Il est bloqué à 1,99. Donc moi, je vous conseille plutôt d'utiliser celui-là. Alors, la question, c'est pas tous la même cuisine qu'ils font. La base, le carburant, c'est le même. Les additifs, chacun fait sa sauce.
D'accord. Okay. Voilà. Bon, faites-vous une bonne sauce, hein, mais pas la mayonnaise dans les moteurs. Ça aime pas, hein. La culasse, elle aime pas. Enfin, la culasse, quand elle est fêlée, elle fait de la belle mayonnaise. On vous embrasse, Eric, et merci de nous avoir fait confiance.
Merci à vous deux. Merci. Bonne journée, bon week-end.
Merci beaucoup.
Merci, Eric. Au revoir.
Et n'hésitez pas, faites comme Eric. Soit vous nous appelez au 0826-300-300, où Jordan vous accueille aujourd'hui. Soit vous nous écrivez un mail, jeparticipe@sudradio.fr, avec votre question et vous mettez bien en parle auto dans l'objet. Allez, on va tout de suite prendre le volant d'une voiture.
BioMotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente.
Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant.
Et restez en notre compagnie dans quelques instants, quelques minutes, on va découvrir la fameuse Citroën IC3, première voiture électrique française à moins de 20 000 euros. Mais tout de suite, c'est d'une autre voiture dont il est question avec l'essai de la semaine.
Une voiture au nom charmant, la MX-30 REV de Mazda. Voilà. Mazda, un constructeur qui ne fait rien comme tout le monde. Et sur la MX-30 qui existait déjà, qui était un véhicule électrique à batterie, on avait une petite batterie de 35,5 kWh, donc une autonomie qui était faible. Donc pour aller plus loin, eh bien Mazda, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont encore réduit la taille de la batterie. Maintenant, elle fait 17,5 kWh. Vous allez me dire, ça y est, ils sont complètement dingues, mais non. Parce qu'ils ont installé ce qu'on appelle un prolongateur d'autonomie. Et là, ça va faire plaisir aux aficionados de Mazda, parce que ce prolongateur d'autonomie avec un moteur à essence n'est pas un moteur classique, c'est un moteur à piston rotatif qui était une spécialité de Mazda. Donc esthétiquement, peu de différence avec la version 100% électrique, si ce n'est les logos. C'est un SUV compact, ce MX-30, 4,40 m de long, des portes arrière antagonistes, c'est pas très pratique hein, pour être franc, et puis un espace un peu confiné lorsqu'on est assis à l'arrière. Le coffre a une contenance moyenne de 350 litres. En revanche, la finition est dans la veine Mazda. Moi, j'aime bien, c'est simple, de bonne facture, des compteurs presque classiques, mais épaulés par un affichage tête haute, un écran qui trône au-dessus de la planche de bord. Il est non tactile, mais il se commande avec une molette sur la console centrale. Sur la console centrale, il y a un bouton qui est assez important, c'est le sélecteur de mode. Il a trois positions. La première, c'est EV, on comprendra electric vehicle, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire roulage électrique. Ensuite, vous avez une position normale, je vous explique plus loin ce qu'elle a de normal. Et puis une position charge. Sur cette position charge, le moteur, le range extender, pour parler en bon français, va se mettre en route, il va recharger la batterie. C'est pas bien du tout en termes d'écologie. Le plus intéressant, c'est sous le capot, avec ce moteur électrique un peu plus puissant que sur la version à batterie. 125 kW, ça fait 170 chevaux, accouplé à un générateur qui est entraîné par ce fameux moteur à piston rotatif de 830 cm3. C'est le choix d'une technologie qui s'explique parce qu'elle est légère et très compacte. Ici, ce moteur développe 75 chevaux à 4500 tours. Quand la batterie est chargée, pas de différence avec une MX-30. C'est un véhicule électrique qui pèse 135 kg de plus, mais qui est plus puissant. Donc, on a exactement le même type de conduite. C'est toujours le moteur qui entraîne les roues, toujours le moteur électrique. C'est pas comme une Opel Ampera autrefois, parce que l'Opel Ampera, à partir d'une certaine vitesse, le moteur thermique était embrayé sur les roues. Là, c'est pas le cas. Seule la batterie, sur la seule batterie, la conduite, elle est vraiment douce, elle est silencieuse. On peut faire, on va dire, selon Mazda, jusqu'à 85 km en mode EV, c'est plus près de 70 dans la réalité. Ensuite, le moteur rotatif se met en route lors des fortes accélérations. Enfin, il se met en route de toute façon quand vous êtes en mode normal. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous explique, en mode normal, à partir de 50% de la capacité de la batterie, ce moteur rotatif se met en route. Il y a plusieurs cas de figure quand il se met en route. Vous êtes sur la route, gentiment, à 50% de capacité de batterie, il se met en route, il ne tourne pas très vite, aux alentours de 2300 tours, ça fait un peu de bruit dans l'habitacle, mais ce n'est pas catastrophique. Ça devient beaucoup plus gênant quand on est à grande vitesse. Avec là, pareil, deux cas de figure. Vous êtes à, alors vitesse maxi déjà 140, mais vous êtes à 130 sur l'autoroute. Là, le moteur rotatif va grimper dans les tours aux alentours de 4500 tours et ça fait plus de bruit qu'une voiture thermique normale. Ça fait plus de bruit qu'un gros diesel. Donc, on se demande où est l'intérêt. D'autant que quand je vais vous parler de la consommation, c'est carrément catastrophique parce que sur l'autoroute à 130, on est entre 10 et 11 litres au 100. Il n'y a aucune voiture aujourd'hui moderne qui a des consommations comme ça pour une puissance comme celle-là. Donc Mazda a toujours des choix technologiques qui sont originaux, mais là on se demande si c'est réellement pertinent. Pendant mon essai, moi j'ai consommé 15 kWh aux 100 km d'électricité. Alors en mode électrique, la voiture n'est pas très gourmande. En revanche, il faut additionner les 5,8 litres au 100 de consommation d'essence. Au total, si on ajoute, parce qu'il faut ajouter les deux, si on ajoute les deux, ça fait 69 kWh aux 100 km. Quand un véhicule à batterie équivalent consomme 22 kWh dans les mêmes circonstances. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment catastrophique. Bon, on peut recharger quand même. C'est l'avantage d'avoir à la base un véhicule électrique. On a une recharge interne en 11 kW en courant alternatif, 35 kW en courant continu. C'est plus que sur les hybrides rechargeables classiques. Le problème, je viens de donner le nom, c'est que c'est considéré par la réglementation comme un hybride rechargeable. Donc, vous n'avez pas de malus, mais vous n'avez pas non plus de bonus écologique. Et comme le tarif est quand même un peu important, sur ma version Makoto avec les options, on est à 42 850 euros. On se demande bien qui va mettre 42 850 euros dans un véhicule électrique qui peut faire que 70 km. Et ensuite, on a tout sauf l'envie de mettre en route ce fameux prolongateur d'autonomie à moteur rotatif. C'est par essence la fausse bonne idée. Mmh. On a parlé il n'y a pas longtemps de la Fiat 600e qui est concurrente de cette voiture-là. Une Fiat 600e, ça va être moins de 30 000 euros. Là, on est à 42 850 euros. Voilà.
Ça fait un peu beaucoup. Hein.
Bon, ceux qui aiment la technologie pourront se payer cet engin, mais sinon, je me demande ce qui est passé par la tête des ingénieurs de Mazda. D'habitude, je trouve ça très bien. Je me pose des questions.
Il y a Alphonse sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez, vous êtes nombreux et merci d'être avec nous, hein, qui dit moteur rotatif très compact, quelle catastrophe en termes de maintenance entretien.
Oui. Alors, ils ont quand même, Mazda a progressé sur la segmentation des moteurs rotatifs. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais c'est ce qui posait problème jusqu'à présent. Donc là, ils ont progresser. Alors, ils nous disent que la longévité va être supérieure, mais il y a ça aussi. La longévité d'un moteur rotatif, elle est moins importante que celle d'un moteur classique Biel-Manivelle, on appelle ça comme ça.
Biel-Manivelle ?
Ouais.
Ah, Louis Biel, ça me fait penser au rugby, moi. Oh, Sniff, ils ne seront pas en demi-finale ce soir. Non, je rigole, le petit Louis, là. Ouais. Bon, bah super, bah, merci pour le prix. Donc, on l'a vu, hein, trop cher par rapport à son rapport qualité-prix, comme on dit généralement. Mais par contre, puisqu'on parle de prix, restez avec nous, parce que dans quelques minutes...
Alors, on va parler d'une surprise, mais dans l'autre sens.
Ouais, une bonne surprise dans l'autre sens, et en plus c'est une marque française, Cocorico.
Sud Radio, on parle auto et on prend le volant.
Et avec BioMotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr.
Évidemment, l'essai complet de l'ami Jean-Luc, que vous avez pu suivre en partie sur la page Facebook de Sud Radio, vous la retrouvez dans son intégralité sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, tout de suite, découverte de la petite Citroën qui va bien nous faire craquer.
Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente
Sud Radio, on parle auto et d'environnement.
La première voiture électrique française à moins de 20 000 euros, la Citroën iC3. On en parle sur Sud Radio avec Thierry Koskas, qui est directeur général de la marque Citroën et directeur des ventes et du marketing de Stellantis. Bonjour monsieur Koskas.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, on vous entend parfaitement bien. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous,
d'avoir
un des grands patrons de Stellantis pour nous parler de cette petite Citroën iC3 qui a été présentée cette semaine et qui, je pense, a étonné tout le monde. Vous avez eu déjà quelques retours. Moi, j'ai lu dans la presse que les commentaires étaient plutôt élogieux sur la voiture. On va rappeler rapidement ses caractéristiques pour ceux qui l'ont loupé. Petite citadine, relativement compacte, hein, un petit peu plus de 4 mètres de long.
Surtout
un vrai moteur, parce qu'on va la comparer fatalement, hein, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a comparé à la Dacia Spring, mais qui a un moteur qui est un peu juste. Là, on a un vrai moteur 113 chevaux, on a une batterie qui est beaucoup plus généreuse, 44 kWh, ce qui permettrait de faire, selon la marque, jusqu'à 320 km. Et tout ça proposé à un tarif absolument hallucinant. Alors, 23 300 euros en prix de base, et quand on enlève les 5 000 euros de bonus écologique, ça fait 18 300 euros. Mais comment vous faites ?
Je crois qu'il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. C'est d'abord une nouvelle plateforme qui a été conçue entièrement pour recevoir des voitures électriques. C'est une technologie de batterie différente, et puis c'est surtout une optimisation et une simplification à tous les étages. Pour vous donner une illustration concrète, on met 25% moins de temps à fabriquer cette voiture par rapport à la C3 actuelle. Et puis, on va avoir une gamme très simple, ce qui est d'ailleurs super bien pour les clients, puisqu'il aura à choisir entre deux niveaux de finition, deux niveaux de batterie, et c'est tout. Mais pas d'option, la couleur, bien entendu, mais donc un choix très simple. Et tout ça, ça facilite la fabrication, et donc ça fait au total un véhicule qui est... très économique et donc pas cher.
On a en plus une très nouvelle ligne. Enfin, moi, je reconnaîtrais pas plus, Citroën.
C'est un peu plus carré.
Ouais. C'était
c'est le petit côté
rêve.
C'est le concept Oli qui avait montré la voie, c'est ça ?
Ouais, alors on renouvelle le design parce que c'est vrai bien. Que C3 c'est vraiment un blockbuster. Il est tout en rondeur. En fait, on a des lignes qui sont qui restent quand il n'y a pas de lignes acérées. Vous voyez, on a malgré tout des surfaces assez douces. Par contre, on a quelques éléments, notamment les phares et les feux arrière, qui sont très géométriques, et donc on essaie de combiner des lignes assez douces avec quelques marqueurs géométriques. On a surtout une voiture qui est donc une berline du segment B, mais qui est un peu plus haute sur la route, parce qu'en fait, ça donne les gens aiment bien, les clients aiment bien, parce que ça donne un peu un sentiment de sécurité, on voit mieux la route, et donc on est 10 cm plus haut sur la route par rapport à une berline classique.
D'accord. La voiture, on a dit français au début, mais elle est fabriquée dans quel pays ? Et les éléments, pour l'instant, la batterie, vous nous avez parlé d'une technologie différente, c'est du lithium fer phosphate, donc qui est un petit peu moins cher. Et c'est une tendance de fond d'ailleurs, d'aller vers des batteries un peu moins chères aujourd'hui. Les batteries proviennent d'où et la voiture est fabriquée où ?
Alors la voiture est fabriquée en Slovaquie, à Trnava, là où aujourd'hui on fabrique la C3. En fait, on a une usine qui est hyper optimisé et qui sait fabriquer Citroën. C'est une usine qui est quasiment dédiée à Citroën. Donc on est évidemment en Europe. Les batteries, dans un premier temps, elles viennent de Chine. Ça ne veut pas dire qu'elles viendront de Chine tout le temps parce que vous avez...
Il y a des Gigafactories.
On est parti aussi là-dessus. Donc on verra comment les choses évolueront. Mais pour le moment, donc les batteries viennent de Chine.
Vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied, parce que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps la IC4, alors même avec le moteur 156 chevaux, elle n'offre pas une autonomie beaucoup, beaucoup plus importante que celle-là, elle n'offre pas un rapport poids-puissance supérieur à celle-là, sauf qu'elle coûte pratiquement le double, enfin pas le double, mais 60% plus cher. Là, avec un tarif comme celui-là, d'un coup, vous redéfinissez le marché.
Je crois que là, on fait surtout une rupture, parce qu'en fait, et je trouve que la comparaison avec la 2 chevaux, elle est assez intéressante, parce que la 2 chevaux avait rendu la mobilité finalement accessible à beaucoup, beaucoup de gens qui n'imaginaient pas forcément acheter une voiture. Et avec Citroën IC3, on met la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui n'imaginent pas acheter une voiture électrique parce qu'ils pensent que c'est très cher. Et demain, ils vont se dire, quand vous imaginez, parce que vous avez parlé de la voiture à 320 km à 23 300 € avant les aides du gouvernement, mais un an plus tard, on va sortir une version à 200 km à 19 990 €. Donc vous imaginez, quand vous rajoutez le bonus gouvernemental, ça fait vraiment une voiture pas chère. Et la voiture à 320 km, on sera capable de la proposer, en fonction des conditions d'accès au bonus, à 99 € par mois. Donc on est vraiment en train de démocratiser l'électrique. C'est une vraie révolution.
Thierry Goskas, deux questions. La première, c'est que là, moi, j'ai l'impression que vous vous placez quand même en concurrence directe avec
des
Dacia.
Les Chinois et Dacia.
Et deuxième chose, est-ce que c'était pas nécessaire pour Citroën, qui est quand même très en perte de vitesse par rapport à son concurrent Renault, la marque aux losanges, pour l'instant, a priori, et que c'était presque une histoire de survie, de réagir comme vous l'avez fait et très bien fait?
Sur la première question, on est effectivement dans un segment sur lequel il y a aujourd'hui très peu de concurrents. Alors j'aime pas forcément me comparer aux concurrents que vous avez cités, parce que on a une voiture qui est d'un segment différent. On a une vraie voiture de 4 mètres, 5 places, avec énormément d'équipement, et puis une autonomie de 320 km. Donc c'est des caractéristiques vraiment...
Oui, on n'en a pas parlé, Thierry, mais en plus, une voiture qui fait de la charge rapide à 100 kW, qui permet d'aller loin. Ça peut être une première voiture, en fait.
Et la deuxième question ?
Exactement, parce qu'on peut aller au-delà de simplement l'autonomie, puisque dans la version de base, on a la recharge rapide, donc 26 minutes pour recharger la batterie. Donc ça permet d'aller faire des trajets plus longs. Et il y a d'ailleurs maintenant, il n'y a pas une station-service sur autoroute dans laquelle il n'y a pas des bornes de recharge rapide. Et puis, pour répondre à la deuxième question, est-ce que c'était nécessaire ? Je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN de Citroën d'aller faire des ruptures pour rendre la mobilité accessible. La perte de vitesse, on est en train de l'arrêter. Au mois de septembre, la performance de Citroën était au-dessus de celle de septembre de l'an dernier en Europe. Donc c'est la première fois que ça arrive. On a arrêté l'érosion de nos ventes. On va repartir sur une dynamique. Évidemment, les nouveaux modèles, ça a aidé, mais on est quand même déjà dans une dynamique commerciale où on est en train de repartir à l'offensive.
Bravo. Oui, alors on n'en a pas parlé, hein, mais c'est une voiture qui reprend aussi l'ADN de Citroën. L'ADN de Citroën, pour moi, c'est le confort. Ah, vous avez gardé, même sur une voiture, on va dire, à bas coût, parce qu'on va l'appeler comme ça, à la fois les suspensions à double butée hydraulique progressive, que moi j'adore, c'est presque le confort Pullman de l'hydraulique d'antan de Citroën, et les sièges Advanced Comfort. Ouais.
Exactement, et ça, on en est super fiers, parce que, bon, moi je conduis une IC4 au quotidien, donc j'ai tout, j'ai tout et je suis super content, et là, on le met sur le segment B, alors qu'on ne l'avait jamais fait. Donc on rend le confort, enfin le ce qui fait vraiment l'ADN de Citroën, les éléments que vous avez cités, on les met accessibles dès nos petites voitures. Et ça, c'est aussi unique.
Et comment on fait pour tirer les prix à ce point-là quand on s'appelle Citroën, Thierry Kosca, vous qui êtes directeur général de la marque Citroën, directeur des ventes.
Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'optimisation à tous les étages et à tous les niveaux. Il y a des tas d'astuces et de solutions innovantes dans cette voiture. Vous verrez par exemple que le tableau de bord classique, il est remplacé par une lame qui est au-dessus du volant et dans lequel vous avez les informations principales de la voiture. C'est une solution hyper innovante, c'est super joli à regarder et c'est vachement économique. Et donc finalement, et ça c'est qu'un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples où on a tout repensé, tout refait et tout optimisé.
Ouais. Elle sera disponible quand sur le marché, cette voiture?
Alors, on peut aujourd'hui la précommander. Donc, si vous allez sur citroën.fr, dès la première page, là, vous allez cliquer sur le bouton « Je m'inscris pour la précommander » et vous serez contacté dans ces cas-là par le concessionnaire au début de l'année. Les premières livraisons interviendront au mois d'avril. Mais on peut aujourd'hui s'inscrire pour, je dirais, se mettre, je ne vais pas dire sur la liste d'attente, mais on a déjà des centaines de préinscriptions et donc on peut dès aujourd'hui la précommander et en choisissant d'ailleurs les différentes versions et la couleur, bien entendu.
Ouais. Bon, bravo, Thierry Koskias, pour fêter ce renouveau de Citroën, vous êtes invité cordialement pour la
studio.
Dernière heure de l'émission complète où on répondra aux questions des auditeurs.
Sur Citroën.
Donc voilà, l'invitation est lancée, c'est quand vous serez disponible. Et merci beaucoup.
Mais c'est pas dans deux ans non plus, hein, Thierry Kosca. C'est bientôt, là. C'est bientôt.
Et puis, voilà. C'est très bientôt. Merci beaucoup, en tout cas.
De rien. Moi, je vais pas faire de flagornerie, mais Citroën est une marque chère à mon cœur pour plein de raisons. Et je suis vraiment ravie de voir que ça y est, ça rebouge dans le bon sens.
Merci beaucoup.
La marque au chevron. Allez,
merci.
C'est parti. Dans quelques instants, on continue, évidemment, on parle auto. Vous avez été nombreux à réagir sur cette voiture qui arrive de la part de Citroën à Citroën IC3 sur la page Facebook de Sud Radio. On peut critiquer, Alphonse nous dit, mais ça avance. Voilà, c'est les choses.
Mais c'est très bien.
Moi, j'ai très envie d'essayer.
Bon sens, on n'a pas eu le temps de s'apesantir dessus, mais le 99 euros par mois que nous prenait le gouvernement, ça y est, Citroën le fait.
Ouais, c'est ça. Moi, je veux l'essayer aussi, cette voiture. Non, voilà. Dans quelques instants, on va continuer notre rendez-vous. 11h47, on parle auto avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, on parle auto et d'environnement.
Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron.
Après-midi, on parlera des pneus hiver. Nous aurons l'occasion de savoir que cette obligation démarre au 1er novembre. On fera un point complet avec Dominique Stemfel, qui est président du syndicat du pneu. Mais tout de suite, on va vous accueillir au 0826 300 300, ce numéro que vous composez, où Jordan vous accueille à l'antenne pour poser vos questions à l'ami Jean-Luc. C'est un prénom que j'aime beaucoup. On a parlé de Citroën il y a deux secondes. C'est un autre prénom que j'aime beaucoup aussi, c'est Sylvain. Salut Sylvain.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc.
Vous allez bien ?
Oui, merci. Je vous appelle d'Alsace, près de Haguenau.
Oh, joli.
Le Barin, voilà. Avec le soleil.
Ah, bah c'est bien, profitez-en.
Ouais. Bah, oui,
ça le printemps.
Ça ne va pas durer.
Fôleur.
Ça ne va pas durer.
Est-ce que vous savez pourquoi comment on appelle ça, les trucs de pompiers, là, les casernes de pompiers, en Alsace, il y a marqué SP ?
Moi, j'allais dire sapeur-pompier, non ?
Non, ouais. Ça brûle. Ah, oui, pardon.
C'était la blague du jour de Laurence.
Bon, je ne suis pas alsacien, mais
pour ceux qui sont encore en train d'écouter l'émission, ils ne doivent plus être très nombreux, la question de Sylvain, alors.
Alors, une question pour vous, Jean-Luc, vous qui essayez tant de voitures. Alors,
Je suis depuis quelques semaines l'utilisateur d'un Hyundai Bayon avec le petit moteur 1 litre turbo équipé de la boîte auto à double embrayage.
D'accord.
À titre personnel, j'en suis à ma troisième voiture en boîte automatique, donc j'ai une certaine expérience, dirons-nous. Et ma question ne porte pas sur la boîte, mais plutôt sur la commande de la boîte, qui elle est mécanique. Il faut déplacer le levier pour se mettre en neutre, en braille.
Oui, oui.
Voilà. Alors, je suis très étonné sur ce véhicule, sachant que les voitures sont bourrées d'électronique. On ne peut plus faire 3 mètres avec la porte entrouverte sans qu'une alarme retentisse ou s'affiche au tableau de bord. Mais par contre, dans l'une des bayons, vous pouvez éteindre le moteur, quitter votre voiture, quelle que soit la position de la boîte, sans que vous l'ayez mis en sécurité.
Parce que vous avez un contacteur à clé sur votre voiture.
Oui.
Voilà, parce que en fait, donc c'est une version, c'est votre entreprise qui vous a fourni la voiture, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
Parce que les versions entreprise ont un contacteur à clé, pratiquement tous les autres modèles, c'est du main libre. Donc vous ne pourriez pas faire ça avec les autres. Là, vous pouvez vous couper le contact en ayant mis, en laissant la boîte sur n'importe quelle position. Mais alors j'ai posé quand même la question à Hyundai. Ils m'ont dit c'est de la sécurité.
Alors je me suis déjà fait avoir. J'ai quitté la voiture en drive. Ouais. Et la voiture n'est pas vraiment parquée en toute sécurité.
Non, mais elle a bougé la voiture quand vous êtes descendu.
Légèrement, le temps que je pense que la boîte se enclenche, je ne sais pas, mais enfin, je trouve ça bizarre que je ne ferme pas la porte, je ne vais pas reculer de la voiture, que j'ai déjà une alarme, par contre je quitte la voiture sans être en paix.
Par contre, ce qui se passera, si vous remontez dans la voiture et qu'elle est sur D, vous ne pourrez pas démarrer en revanche. Il faudra la positionner sur P. Voilà.
C'est là que je m'aperçois que j'ai fait l'erreur justement.
Mais c'est quoi cette histoire de clé là ? J'ai pas compris le lien entre la boîte de vitesse et le...
Non, mais quand vous descendez, si vous descendez, parce que Sylvain nous dit ça fait pas bip bip, ça ferait bip bip s'il avait il a une clé
pour éteindre son contact,
clé de contact, il coupe le contact.
Oui.
Si il avait le système sans clé, au moment où il descend de la voiture, ça ne couperait pas le contact.
Oui,
le fait
ça y
d'avoir
est.
La
oui,
vitesse.
C'est ça. Voilà. Ok, d'accord.
Mais j'avais précédemment il y a longtemps un Nissan avec une boîte automatique à commande mécanique, mais je pouvais pas enlever la clé.
Oui, non, mais il y en a plein.
Je pensais que c'était une anomalie du coup.
Non, c'est pas du tout une anomalie, c'est fait pour. Voilà. Pour eux, c'est de la sécurité. C'est de la sécurité. Voilà.
Donc, ça se retrouve sur d'autres modèles. Éventuellement, ça peut exister ailleurs.
Ça peut exister ailleurs. Mais en fait, quand vous avez posé la question, je me suis dit, tiens, mais c'est un truc qu'on n'essaye jamais.
Exactement.
Vous avez dû l'essayer par accident. Parce que moi, c'est quelque chose que je fais.
C'est-à-dire que dans ma voiture personnelle, qui a une boîte à commande électronique, quand j'éteins le moteur avec le bouton pousseur, effectivement, elle se met en paix toute seule.
Ben voilà.
Donc on n'y fait plus attention.
Ben oui, et c'est ça. Et quand vous avez posé la question, je me suis dit, zut, tiens, j'ai essayé cette voiture-là, j'ai pas remarqué ça. Et quand j'ai appelé chez Hyundai, ils m'ont dit, alors le premier interlocuteur que j'ai eu m'a dit, ah bon, ah bon, il se passe ça. Et en fait, oui, après, renseignement pris, c'est fait exprès. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une panne. Et puis, il y en a qui disent la sécurité, c'est d'être boîte verrouillée. Il y en a d'autres qui disent la sécurité, c'est d'être boîte pas verrouillée.
J'ai comparé ça avec une Clio E-Tech, une commande à boîte mécanique. Et si vous coupez le contact et vous n'êtes pas en paix, vous avez une alarme qui retentit ou quelque chose au tableau de bord qui vous dit attention, vous n'êtes pas en paix.
Et ben voilà.
Bon, voilà. En tout cas, grâce à vous.
Chacun chez ses choix.
Merci beaucoup Sylvain, parce que grâce à vous, je pense qu'il y a des gens qui seront moins surpris si jamais ça arrive.
Il y a des gens qui vont essayer, ils vont dire tiens, j'ai essayé avec ma boîte auto.
C'est cool. C'est ça aussi, on parle auto, c'est cet échange, cette communauté avec vous tous qui rejoignez aussi la page Facebook de Sud Radio. Allez, à suivre, on va faire un point sur l'actualité. On vous embrasse Sylvain, passez un très beau week-end ensoleillé a priori en Alsace. Profitez bien. Et puis quant à nous, on va parler de pneus dans quelques instants, juste après le rappel de l'actualité à midi. Et puis restez en notre compagnie car nous allons aussi fêter deux anniversaires, les 60 ans de la Aston Martin DB5 qui fête ses 60 ans, mais surtout aussi les 20 ans des radars automatiques. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron.
Et attention, vous qui êtes avec nous, que ce soit sur la page Facebook de Sud Radio, en écoutant en direct et en voyant nos jolies trognes du samedi midi, il y a un sujet qui va vous énerver avant 13h. On va fêter un anniversaire qu'on se serait bien privé de fêter, les 20 ans des radars automatiques. Mais quelle idée, l'ami Jean-Luc, vous voulez nous gâcher le week-end ou bien ?
Non, du tout, c'est bien au bout de 20 ans de faire un petit point d'étape et de se dire, voilà, est-ce que les 4500 radars automatiques qui sont aujourd'hui répartis sur le territoire français sont toujours aussi efficaces qu'à leur début ? Ont-ils vraiment été aussi efficaces qu'on a essayé de nous le faire croire ? Est-ce que ça rapporte de l'argent à l'État ? Autant de questions qu'on évoquera tout à l'heure avec un monsieur qui vit au quotidien avec un radar automatique. Je pense qu'il y en a dans toutes les pièces chez lui, c'est Rémi Jossaume. Il les connaît très très bien.
On parlera de l'Aston Martin, évidemment, DB5 qui fête ses 60 ans. Comment est-elle entre autres devenue la voiture de James Bond ? Et puis, on va commencer avec les pneus, parce qu'on arrive sur la loi des pneus hiver au 1er novembre.
Exactement.
C'est demain en gros, hein ?
Voilà, on retrouve tout de suite, et ben vous le connaissez, hein.
Dominique Stemfel ?
Exactement.
Allez, c'est parti.
Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente.
Sud Radio, on parle auto, parlons pneu, parlons bien.
Bonjour Dominique Stemfel.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc.
Président du syndicat du pneu.
Voilà. Et on est bientôt le 1er novembre. C'est vrai que ça passe super vite. Bon, les températures assez élevées nous ont pas incité beaucoup à nous pencher sur cette fameuse loi montagne, mais qui va de nouveau être active, on est d'accord, dans, c'est quoi, 9 jours
C'est ça, exactement. La loi montagne, elle est active du 1er novembre au 31 mars.
Alors la loi montagne, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller en vacances à la montagne, c'est
oui.
ça ?
Oui.
Et non, faut pas aller en vacances à la montagne. La loi montagne, elle concerne des territoires de montagne, haute montagne ou plus basse montagne, mais elle concerne en fait 34 départements et un certain nombre de communes. Alors c'est pas très homogène sur 34 départements.
D'accord. C'est ce que j'allais vous dire, parce que depuis que la loi montagne entre en vigueur, il y a eu des ordres, des contre-ordres, il y a des communes qui ont décidé d'imposer, d'autres qui ont décidé de ne pas le faire. Comment on s'y retrouve ? Où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui une information fiable sur les lieux où s'applique cette loi ?
Alors, c'est vrai que le gouvernement et les instances gouvernementales ne nous ont pas aidés à comprendre facilement cette loi, puisqu'il y a eu effectivement des ordres, des contre-ordres, des interventions de préfets qui font que le découpage des zones concernées est assez complexe. Alors, on trouve la liste des communes concernées sur le site de la sécurité routière et puis aussi sur le site de certains professionnels du pneumatique.
D'accord. Qu'est-ce que ça impose, cette loi montagne ? On va le rappeler. Pour tous ceux qui étaient sur une autre planète là, pendant 3 ans.
Cette loi, elle impose d'équiper son véhicule ou de disposer d'équipements destinés à un usage hivernal. Donc c'est soit 4 pneus hiver sur le véhicule, et je dis bien 4, pas 2. 4, et ou également la possibilité d'embarquer un jeu de chaîne ou de chaussettes. Bon, ben, je précise effectivement qu'un jeu de chaîne ou de chaussettes, ça donne pas la même efficacité en termes de sécurité que 4 pneus posés sur la route.
D'accord. 4 pneus, alors vous avez dit hiver, mais est-ce que ça peut être des pneus, les fameux pneus 4 saisons dont on commence vraiment à parler ?
Alors on intègre effectivement, la législation intègre dans l'appellation pneus hiver des pneumatiques 4 saisons, à condition que ces pneumatiques portent un logo qui s'appelle 3PMSF.
En fait, ouais, c'est un petite montagne dans lequel, dessus.
Voilà, avec la petite montagne et un flocon de neige à l'intérieur qui exprime le fait que le pneumatique a été développé et testé pour un usage hivernal.
Et ça marche pour les voitures électriques là ? Elles ont des pneus hiver aussi ? Et ça marche bien une voiture électrique sur la neige, l'ami Jean-Luc ?
C'est mieux. C'est mieux parce qu'on peut doser plus finement le couple. Alors, il y en a qui vont dire que le couple est instantané au démarrage, mais non. Mais d'ailleurs, ceux qui roulent sur le trophée Andros, et on sera de nouveau partenaire de Andros, donc on ira au mois de décembre l'ouverture du trophée Andros à Val Thorens. Mais tous les pilotes vous le diront, c'est plus simple de conduire une voiture électrique sur la glace que de conduire une voiture thermique. Parce qu'on a justement un couple qui est constant, donc on peut le doser plus facilement.
Et question de Bastien qui réalise cette émission et qui se passionne aussi, est-ce que le fait que la voiture soit plus basse avec le poids de la batterie permet une meilleure adhérence sur neige ?
Oui, le fait déjà d'avoir un centre de gravité plus bas, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Bon, après, ça dépend évidemment des pneumatiques. Et tiens, question Dominique, intéressante, si je suis chef d'entreprise et que j'ai des véhicules de société, est-ce que j'ai l'obligation est-ce que c'est une obligation sécuritaire d'équiper ces véhicules pour mes employés qui vont circuler peut-être éventuellement dans des zones où la loi s'applique ?
Pour les flottes d'entreprise, quoi.
Alors, c'est une très, très bonne question. Un chef d'entreprise a l'obligation de confier à ses employés, à son personnel, des outils qui assurent sa sécurité. Donc, ça fonctionne dans les ateliers, mais ça concerne aussi les véhicules qui sont mis à la disposition de personnes itinérantes. Et donc, le chef d'entreprise a l'obligation d'équiper ses véhicules pour que son personnel circule dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Alors, ça concerne effectivement les territoires concernés par la loi montagne, mais ça concerne aussi l'ensemble de la France dans le cas d'un épisode hivernal épisodique.
Et pour les voitures de location ?
Alors, pour les voitures de location, un certain nombre de loueurs proposent, avec un supplément évidemment, mais proposent d'équiper les véhicules de location de pneumatiques hivernaux de façon à pouvoir assurer la sécurité des personnes qui louent les véhicules.
J'ai une très bonne question, une réaction sur la page Facebook de Sud Radio, vous êtes nombreux à nous suivre, de Aouch Chadil qui dit « J'ai des pneus hiver, je ne prévois pas... » Ah mince, la question a sauté. Je ne prévois pas de les mettre... je ne prévois pas de les mettre en raison des températures qui sont trop hautes aujourd'hui et je ne me sens pas en infraction. Et pourtant, si, il va l'être. Il habite à Lyon, nous dit-il. Hein.
Eh bien, en fait, s'il habite à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise qui n'est pas concernée, effectivement, la personne peut garder ses pneumatiques été. Mais par contre, s'il se déplace dans les environs de Lyon où la loi est active, il a l'obligation, en principe, d'avoir un équipement. Alors, évidemment, les forces de l'ordre, elles vont s'intéresser beaucoup plus à la conformité des équipements en cas d'épisode neigeux et pas quand il fait des températures.
C'est sûr que s'il fait 25 degrés, on ne va pas vous verbaliser parce que vous n'avez pas de pneus hiver. D'ailleurs, verbalisation, c'est le mot. Il y a jusqu'à présent eu zéro verbalisation. Il n'y avait pas de sanction si on ne respectait pas la loi. C'est quand même incroyable de voter des lois et de ne pas sanctionner le non-respect. Est-ce que ça va changer ou pas ? On a des infos sur
On n'a pas d'infos, mais moi, ce qui me fait dire que ça ne va pas changer, qu'il n'y aura pas de verbalisation cette année et que le gouvernement ne veut pas en rajouter aux contraintes imposées aux automobilistes et surtout aux contraintes budgétaires. Ceci dit, on a quand même une excellente nouvelle, c'est qu'on a fait notre enquête habituelle auprès d'un certain nombre d'automobilistes et on s'aperçoit en fait que la loi montagne a quand même fonctionner puisque les automobilistes sont dans leur très très grande majorité sensibilisés au fait qu'ils doivent s'équiper pour rouler dans la meilleure sécurité possible et donc en fait le fait de sanctionner a de moins en moins de sens sur la majorité des automobilistes. Alors maintenant on peut se dire effectivement que si 80% des automobilistes s'équipent et que 20% sont pas équipés, ces 20% là ils mettent quand même en danger la vie des autres usagers de la route.
Ça
coûte combien de s'équiper, Dominique ? Alors, on part de la paire de chaussettes, toute simple. Ça coûte combien une paire de chaussettes pour les pneus ?
On en trouve pour quelques dizaines d'euros. Il vaut mieux quand même mettre un petit peu plus de façon à avoir une qualité de produit suffisante. Donc, c'est de l'ordre de 100 euros. Par contre, on a une excellente nouvelle, puisqu'en fait, nous, on fait des études très, très régulières. Il y avait un écart relativement important entre un pneumatique toute saison par rapport à un pneumatique été. Et là, on s'aperçoit que la loi de la concurrence ou le jeu de la concurrence a parfaitement fonctionné, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'écart entre un pneumatique été et un pneumatique toute saison. Donc, ce qui fait qu'on peut s'équiper pour rouler toute l'année en sécurité et en conformité avec la loi, à prix égal avec un pneumatique été.
D'accord. Bravo. Comment font les pays voisins France ?
Parce qu'on
a le sentiment que la loi montagne, ça va être une exception française, alors que les autres étaient plutôt en avance, on était en retard.
Oui. Alors, quand on parle des pays frontaliers à l'est de la France en particulier, le Luxembourg, c'est une obligation totale. L'Italie, c'est une obligation sur un certain nombre de routes, mais c'est une obligation d'équipement avec des pneus hiver et pas avec des chaînes, avec des pneus hiver. L'Allemagne a pris une autre solution, en fait, c'est de responsabiliser les automobilistes et de leur interdire
avec un certain nombre de contraintes, de rouler avec des pneumatiques été si les conditions météorologiques sont hivernales. Donc en fait, en Allemagne, c'est clair, on n'a pas d'équipement, on ne sort pas de chez soi.
Et il y a Marc qui dit une très bonne réaction. Moi, franchement, Marc, il est pâtissier sur la page Facebook du Radio. Il dit, avec cette loi sur les pneus, est-ce que le fait de généraliser les pneus 4 saisons n'est pas la bonne idée, carrément? C'est-à-dire qu'on devrait tous avoir des 4 saisons sur nos voitures.
Alors, il y a des voitures sur lesquelles ça ira pas. Hein. Si vous avez des voitures vraiment très, très puissantes, les 4 saisons, c'est pas forcément adapté l'été. Hein.
Vous avez raison, Jean-Luc, mais pour le commun des automobilistes, et la question est excellente, ben, les automobilistes, ils ont trouvé la solution. Hein. Ils s'occupent de plus en plus, ils s'équipent de plus en plus de pneumatiques 4 saisons, ouais. Puisque aujourd'hui, dans les ventes de pneumatiques, sur les observations qu'on peut faire, un pneumatique sur 3 acheté est un pneumatique 4 saisons. Donc ouais. En fait, là, les automobilistes, ils ont trouvé tout seuls la solution.
Bah oui,
ils s'équipent de pneumatiques 4 saisons, ils sont en sécurité et en conformité avec la loi.
Il y a des constructeurs qui font ça aussi. J'ai essayé cette semaine un Volvo XC40 Extended Range, donc la nouvelle version. Il est équipé de Michelin Cross Climate 2, donc d'origine. Mmh. Donc et si vous achetez ce genre de véhicule, vous serez équipé. C'est pourtant une voiture 100% électrique, hein, qui est équipée d'origine de 4 saisons.
Puisqu'on parle de pneus hiver avec cette loi montagne au 1er novembre, est-ce qu'il ne serait pas utile pour ceux qui arrivent peut-être depuis quelques samedis ou là aujourd'hui à l'écoute de Sud Radio, de rappeler aussi que normalement on passe aux pneus hiver quand la température descend en dessous de 7 degrés. Et pourquoi, Dominique Stemfel?
Alors ça, c'est effectivement la version technologique, tout simplement parce que les pneumatiques hiver ont des gommes particulières qui gardent leur capacité d'adhérence par temps très froid. La température acceptable pour un pneu été se limite à 7 degrés. En dessous de 7 degrés, la pneumatique été perd de ses capacités d'adhérence, y compris sur sol sec, hein, puisque la gomme durcit avec le froid. Et la gomme d'un pneu hiver, d'un pneumatique hiver, labellisé hiver, garde ses capacités d'adhérence en dessous de 7 degrés.
Mmh. Voilà, bah, en tout cas, on a fait le tour.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler.
Bien sûr.
Voilà.
Bah, tous les samedis, on est la seule émission de radio qui parle de pneus.
Oui, voilà. Alors au départ, on s'est dit, tiens, c'est un challenge, mais en fait, le sujet est tellement vaste. Qu'on n'a pas fini d'en parler. Puis ça reste le seul équipement d'une voiture qui restera, parce que la voiture volante, ça ne va pas être pour tout de suite.
Non,
hein. Donc je pense qu'on mettra encore des pneus sur les véhicules pendant un bon moment.
Comme les avions en ont quand
ils
atterrissent.
Il faudra atterrir.
Et on finira ce grand moment de radio consacré aux pneus par la blague de Sullivan sur la page Facebook de Sul Radio. Oui. La 4 saisons, c'est une très bonne pizza. Allez, au revoir Dominique Stemfel.
Merci beaucoup et bon appétit.
Merci.
On va continuer évidemment avec vous. Il y a une dernière question qui arrive, mais on la prendra juste dans quelques instants. Juste après, puisqu'on va d'ailleurs prendre votre question au téléphone au 0826 300 300.
Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien.
Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron.
Restez bien en notre compagnie, puisque dans quelques minutes, on va parler de la fameuse Aston Martin DB5, hein, puis on essaiera de savoir et de comprendre pourquoi et comment elle est devenue la voiture de James Bond. Juste après, on fêtera les 20 ans des radars automatiques, mais tout de suite. Non, vous n'êtes pas gentil, Jean-Luc Moreau.
Mais non, mais je m'imagine dans la DB5 avec tous les gadgets face à un radar automatique. Un coup de mitrailleuse à l'avant, voilà, pour régler le problème.
Et on n'en parle plus. 0826 300 300, vous savez que c'est votre émission. Vous êtes nombreux à avoir posé plein de questions sur les pneus suite au rendez-vous que l'on vient de terminer avec Dominique Stemfel, président du syndicat du pneu. On va garder vos questions.
On parle pneus toutes les semaines, donc on aura l'occasion d'en parler.
On a des super questions. On va sans doute les poser la semaine prochaine d'ailleurs. Alors, parlons avec Thomas qui nous rejoint au standard de Sud Radio. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Merci. Bonjour Thomas.
Comment ça va?
Ma question. Ça va, tout va bien.
Super. Bon. Vous êtes où?
Je suis à Oraison, dans les Alpes de Haute-Provence.
Ah, c'est joli. Quel temps?
Ça oscille entre pluie et soleil aujourd'hui.
C'est bien. La pluie, ça va recharger un peu les nappes. On vous écoute, Thomas.
Voilà. Alors voilà, j'ai une Golf TSI 1.2 105 chevaux de 2013. J'ai 175 000 km aujourd'hui et j'ai une très grosse consommation d'huile depuis à peu près 3-4 mois. Grosse consommation d'huile, c'est-à-dire que j'ai le pot d'échappement bien noir, dépôt en permanence.
Ouais.
Donc je suis allé voir mon garage. Donc lui il me dit, écoutez, on va essayer de voir déjà combien elle consomme. Et en gros, je consomme
Alors on a des problèmes, alors, Thomas, on a des gros soucis de réseau et de qualité de votre intervention au téléphone.
Est-ce que c'est mieux?
Alors allez-y, vous consommez combien?
Un litre, plus d'un litre pour 1000 km.
Ah oui, c'est trop. Ça, c'est clair, voilà. C'est trop.
C'est ce que j'avais avec ma DS3.
Ouais. Et dans le mail, vous mettez que vous avez roulé à l'éthanol avec une reprogrammation,
oui,
c'est ça?
Voilà, je roule à l'éthanol depuis 80 000 km à peu
près. Ouh,
ça sent pas bon.
Ouh là là.
Oh, vous verriez la tête de Jean-Luc, ça sent pas bon. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.
Bon, déjà, le moteur 1,2 litre TSI, il a une fiabilité moyenne. Ça, faut le savoir. C'est un moteur qui peut avoir des problèmes de culasse, de piston. Et là, oui, ce qui va nous intéresser encore plus, de segments de piston. Voilà, votre consommation d'huile, elle est liée à ces problèmes de segments de piston. Le fait de rouler à l'éthanol, quand vous démarrez à l'éthanol, en plus vous avez fait une reprogrammation. Les reprogrammations, il y a tout et n'importe quoi en reprogrammation. Ouais. Hein, donc il y a des reprogrammations basiques qui sont en général vendues, je ne sais pas combien vous l'avez payé, aux alentours de 150 euros, les gens se disent...
Non, j'ai payé un peu plus de 700 euros, c'était sur avant, c'était avec des gens qui ont tout ce qui est pas...
D'accord.
Officiellement connu. Sur,
D'accord. Bon, vous savez que vous avez roulé illégalement, ça c'est le premier truc de la reprogrammation. Oui. Mais bon, si elle a été faite sérieusement, c'est peut-être un peu moins grave. Mais là, dans votre cas, quand vous démarrez, de toute façon, il faut enrichir beaucoup à l'éthanol. Oui. Donc il y a toujours une partie du carburant qui n'est pas brûlé. Si vous avez des segments qui sont un peu faiblards, ce qui est le cas sur ce moteur-là, l'éthanol va descendre dans le bas moteur et l'éthanol, c'est
mal pour
voilà,
vous.
Voilà, voilà, l'éthanol, c'est pas terrible quand on a une forte dilution avec l'huile moteur. Donc, l'éthanol a sans doute aggravé le problème sur votre moteur qui est déjà sujet à la consommation, d'huile. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Votre concessionnaire vous a proposé un remplacement. Combien?
6 000 euros, je crois.
6 000 euros. Voilà.
Ouais, entre,
le remplacement
minimum,
du moteur.
Voilà.
Bon, alors moi, je vais vous faire économiser 4 500 euros.
Okay.
Voilà, je vais vous faire économiser 4 500 euros,
hein,
que vous pourrez d'ailleurs envoyer par chèque ou par virement au nom de Jean-Luc Moreau.
Paris. Ah, vous ne partagez pas, vous?
Ouais. Non, en fait, je vais vous donner le tarif.
Alors pourquoi?
Le tarif public moteur neuf chez Volkswagen, il est de 7 470 euros hors taxe. Ensuite, vous avez... le remanufacturé, donc l'échange standard, c'est ce que vous a proposé sans doute votre garagiste, qui est à 4000 euros hors taxe. Moi, ce que je vous propose, c'est avec notre partenaire Back to Car, de racheter un moteur reconditionné complètement garanti à vie pour 1500 euros hors taxe.
Mais là, c'est après, il faut le faire monter.
Et il y en a des disponibles. Ouais, mais là, on parle de l'achat du moteur.
C'est-à-dire que tu le commandes, quoi.
Voilà, vous le commandez, vous demandez à votre réparateur de commander le moteur. Déjà, il va vous coûter quand même... presque 5 fois moins cher
que le
moteur que vous vendrez neuf Volkswagen.
Ok.
Donc voilà.
C'est génial.
Hein, Back to Car, ils en ont disponible en plus. J'ai appelé hier, j'ai appelé Luc Fournier, qui est le patron de Back to Car. Il m'a renvoyé un petit SMS en me disant voilà, on en a 1500 euros hors taxe publique, garantie à vie. Alors vous allez me dire comment eux ils peuvent garantir à vie un moteur que j'ai jugé moi au départ moyennement fiable, simplement parce que les faiblesses du moteur on les connaît, donc quand on refabrique le moteur, quand on le rénove, on va dire ça comme ça, on corrige les défauts initiaux et ce moteur ne souffrira plus de problèmes de segment comme il a eu alors qu'il était neuf.
Et quand notre ami va changer son moteur, grâce à vous Jean-Luc, beaucoup moins cher. On arrête l'éthanol sur ce moteur-là, du coup.
Oui, il vaut mieux.
On a tout compris, hein, Thomas. Ouais. Moi, ça me paraît
évident. Même avec un boîtier, parce que moi, si je m'en pose un peu, même avec le boîtier, c'est pas recommandé.
Bah, vous allez avoir le même problème.
Ouais, alors si vous le posez la question à Volkswagen, ils vont vous dire au secours. Moi, je vais vous dire, voilà, en plus, c'est un moteur qui peut avoir aussi des problèmes de sonde lambda, elles sont fragiles. Alors c'est dans l'échappement, donc là on vous laisse, ça ne sera pas changé. Hein. Mmh. C'est le moteur sans les périphériques, vous n'avez pas l'échappement et tout ça. Donc la sonde lambda risque de tomber en carafe. Si elle tombe en carafe, vous risquez d'avoir un moteur qui va être en mélange trop pauvre. Enfin bon, bref.
C'est
un moteur sur lequel il y a un vrai risque.
Ouais. Donc moi, je serai vous, perso, je ne referai pas l'éthanol.
Okay.
Ou alors trouver une Golf d'occasion multifuel, celle qui était d'origine. Et franchement, c'est un des meilleurs véhicules qui est sorti. Ça consommait 7,5 litres d'éthanol au 100. C'était plus agréable à conduire, c'était plus puissant que la version essence. Oui. Si vous en trouvez une d'occasion, jetez-vous dessus. Mais le problème,
mais
c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup.
En tout cas, je suis ravie parce qu'on vous a, grâce à Jean-Luc, moi j'y suis pour rien pour le coup, c'est lui qui a fait tout le taf. Il vous a trouvé un super... un super moteur pas trop cher. Et puis bah, merci à notre partenaire Back to Car.
Ça paraît complètement incroyable, mais c'est pourtant vrai.
Il faut vraiment avoir ce réflexe d'aller sur Back to Car maintenant. Ils font vraiment des choses. Bon, mais bisous Thomas, parce qu'on se fait gronder par Bastien, notre réalisateur.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci beaucoup. On vous embrasse. Allez, dans quelques instants, on va fêter deux anniversaires. Le premier agréable, le deuxième, bon, on parlait quand même, quoi.
Sud Radio, on parle auto, Classic Cars.
Ah ouais, moi j'ai carrément... ben voilà, on va pas parler que de James Bond. Merci de nous rejoindre si vous arrivez à
10h30
pratiquement.
On va parler de l'Aston Martin DB5 dont c'était l'anniversaire cette semaine.
Exactement.
Elle a été présentée en 1963 au Salon de Londres.
Bon, elle a eu 60 ans.
Elle a eu 60 ans. Oh. Et l'Aston Martin DB3, bon, c'est une voiture de sport qui était propulsée par un moteur 6 cylindres de 4 litres qui faisait 286 chevaux. Donc une des voitures les plus performantes de l'époque. Mais c'est pas ça qui l'a rendue célèbre. Ce qui a rendu célèbre l'Aston Martin DB5, c'est évidemment James Bond.
007.
Voilà. Et pour en parler avec nous, un grand spécialiste, on a Jean-Patrick Flandé, qui est fondateur de Film Media Consultant, qui fait du placement, justement, de produits dans les films, et en particulier de véhicules. Bah, par exemple, dans Taxi...
c'est lui qui a mis la Peugeot.
Exactement.
Ah, bon. C'est génial, c'est la première fois que je rencontre un placeur de produits dans le cinéma.
Bonjour Jean-Patrick.
Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc.
Et c'est vous qui vous occupez aujourd'hui, d'ailleurs, de James Bond.
Oui,
Comment il va
il va très bien. Il est un petit peu sous les radars, là, parce que, comme vous savez, avec les grèves des comédiens et juste la sortie de la grève des scénaristes, ça a mis un petit peu un arrêt à toutes les grosses productions internationales, mais il va bien.
Bon, alors racontez-nous comment.
Avant de parler de là, parce que je suis passionné par ça, Jean-Patrick Flandé, un mot, comment vous travaillez, comment vous arrivez à faire du placement de produits comme les voitures par exemple dans les films, comment ça se passe?
Eh bien, tout démarre du scénario, c'est-à-dire que les producteurs nous confient les scénarios, les histoires, et après une première lecture du scénario, on regarde ce que demande, ce que souhaite l'auteur, le metteur en scène, et puis on va réfléchir avec la production et réfléchir avec des constructeurs automobiles, quel est le meilleur mariage, et on met en place ce mariage en quelque sorte.
D'accord. Bon, alors le mariage entre James Bond et Aston Martin, ça s'est pas fait simplement, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été un peu chaotique au départ.
Oui, ça a été un peu chaotique parce que les gens étaient... James Bond n'était pas ce qui est devenu James Bond aujourd'hui. C'était le deuxième opus d'un film qui avait certes bien marché, mais bon, c'était que le deuxième opus. On ne savait pas ce que ça allait faire.
Le premier, c'était Dr. No, et là, on parle de Goldfinger, qui a été tourné en 1964. Donc,
on en était
au début de James Bond. Mmh. Et c'est vrai que quand les producteurs sont allés voir Aston Martin... Alors, ils sont d'abord allés voir Jaguar, je crois. Ils se sont fait bouler.
Et quand
ils sont allés voir Aston, on leur a dit, vous êtes gentils, on va pas vous filer une voiture pour mettre des gadgets, nos voitures ont pas besoin de gadgets. En gros, c'est ça.
Exactement.
Ah.
La demande était lourde, c'est-à-dire parce qu'ils demandaient deux voitures identiques, ils voulaient bidouiller effectivement la voiture, et bien sûr, ils ne voulaient pas obligatoirement acheter la voiture. Ils voulaient pouvoir en bénéficier gratuitement. Donc, ça a été un petit peu compliqué, mais le producteur KB Broccoli était assez convaincant. Il a réussi, mais en deux ou trois étapes, je dirais, à les convaincre de venir à bord. Et ça a été le début d'une grande histoire d'amour, je dirais, entre Bond et la Aston Martin. Et ce qui est marrant aussi, c'est que dans les bouquins, enfin, Ian Fleming était quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup l'automobile, qui était vraiment, qui connaissait bien. Il était propriétaire d'une AC. Une AC Aska, et il aimait vraiment les très très belles voitures.
Et il fait rouler James Bond dans une, c'est une DB3, je crois, qui est une voiture de course en fait.
Exactement, oui, DB3, voiture de course et de ville, mais les James Bond se sont, enfin, entre les romans et les films se sont toujours adaptés à l'actualité, c'est-à-dire que les James Bond aujourd'hui suivent l'actualité ou même la devance parfois. Donc ce qui était dans le roman. Dans le roman, je crois qu'on parlait même d'une Bentley. Il avait une Bentley de l'immédiate après-guerre, donc c'était quelque chose qui était déjà dépassé à l'époque. Donc quand Q va lui proposer un nouveau modèle en lui disant, écoutez, je pense que votre Bentley, elle est un petit peu dépassée, j'ai quelque chose d'intéressant pour vous, bah, ça a été le choc de la DB5, effectivement, qui était une voiture absolument divine et qui a séduit tout le monde. Je ne me rappelle plus le nombre de petits modèles.
Je crois que c'est plus d'un million qui ont été les miniatures. Voilà. C'est Gorgi Toys qui avait sorti la voiture de James Bond avec les petits gadgets. Et je crois que ça a été plus d'un million d'exemplaires.
Et c'est aujourd'hui un collector d'enfer. Hein.
Ouais. D'ailleurs, bon, évidemment, ce qui fait le succès de la voiture de James Bond, c'est tous les gadgets qui ont été mis dessus. Et c'est pareil, on disait, alors l'histoire du mariage entre James Bond et Aston Martin, ça a été complexe. Mais l'histoire des gadgets, ça a été complexe aussi, parce que tout le monde dans la production s'est pointé en disant « bah tiens, ça serait bien de mettre ça, ça serait bien de mettre ça ». Et puis au final, ça n'a pas été si simple d'arriver. Alors on voit, tiens, on a ceux qui ont l'image
sur la page Facebook. Merci à Bastien.
On voit les mitraillettes qui sortent des feux avant. Alors moi, ce que j'avais lu, vous allez me dire si c'était vrai, c'est que en fait, les plaques tournantes, c'est celui qui est en charge des décors de Goldfinger, qui arrêtait pas de prendre des PV pour stationnement, a dit bah tiens, faut mettre des plaques qui tournent.
Exactement. ça c'était. Alors l'histoire ne dit pas qu'il l'a adapté à sa propre bagnole.
Non, mais c'est génial vu le sujet qui va arriver juste après.
Voilà. Le siège éjectable, c'est pareil. En fait, au départ, il devait y avoir un système pyrotechnique pour éjecter le siège. Puis on s'est rendu compte que si on mettait un système pyrotechnique, c'est le plancher qui partirait dans l'autre sens. Alors après, il y a eu un système pneumatique. On le voit, alors on a des images, on voit tout le système pneumatique qui était monté dans le coffre.
C'est magique.
C'est ça qui a fait en fait la légende de la voiture. C'était absolument incroyable.
Exactement. Et puis en plus, il faut dire une chose, c'est que c'est un constructeur qui fabriquait extrêmement peu de voitures. C'est quelques milliers, quelques milliers de voitures par modèle. C'était quelque chose qui était très très limité. Et la clientèle qui était prête à acheter une Aston Martin, c'était pas obligatoirement la clientèle qui allait voir un James Bond au début, je dirais.
Ensuite, parce que quand le tournage a commencé, en fait, il y a beaucoup de célébrités qui se sont intéressés à la DB5 et qui ont commandé des voitures. Alors je crois que Aston Martin pouvait en produire 11 par semaine et en fait il y en avait 50 par semaine qui étaient commandées. Donc ils ont été obligés de sélectionner les clients. C'est assez rigolo quoi. Ils sont passés, ils étaient au bord de la faillite avant de signer le partenariat avec Bond et en fait ça a sauvé la marque.
Ça a sauvé la marque plus d'une fois. J'ai une anecdote qui est amusante. Quand ils ont tourné The Living Daylights, ça ne rappelle plus le titre en français, Tuer n'est pas joué, avec Timothy Dalton. Et quand ils ont tourné ce film, ils avaient donc besoin, il y avait toute une histoire avec une DB7 à l'époque sur des patins à glace, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui, je me souviens très bien.
Voilà, donc et ils avaient besoin de 5 véhicules pour faire les cascades, c'est-à-dire qu'il y avait un véhicule qui était dans cette conformité, l'autre dans une autre conformité, etc. Et puis on prévoyait qu'éventuellement qu'il y avait de la casse. Et Aston Martin était, encore une fois, vraiment entre deux acheteurs et vraiment au bord de la faillite, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient quasiment pas à payer les salaires de chaque semaine des ouvriers. Et Kirby Broccoli, qui était devenu quand même très proche de la marque et ami de toute la bande, des directeurs, etc., avait dit, écoutez, pour cette fois, je vais les acheter. Je vais acheter les voitures, vous me faites un prix, mais je vais les acheter. Et il a acheté les 5 voitures qu'il fallait pour le tournage, et cet achat a permis de payer le salaire pendant un mois du personnel. Donc ça a été même jusqu'à ce point-là avec un accord financier, je dirais, pour sauver la boîte. Bon, aujourd'hui, je crois que la notoriété d'Aston s'est vraiment appuyée d'une façon extrêmement forte sur le James Bond. Et ça continue. Et chaque fois, c'est une bonne surprise quand on voit ou les nouvelles ou la DB5. C'est toujours marrant.
Oui. Jean-Patrick Flandé, on n'a plus le temps, mais une dernière question. Vous répondez par oui ou par non. Est-ce qu'il y aura une Aston Martin dans le prochain James Bond ?
Je réponds par je ne sais pas. Mais je pense que oui, mais je vais être honnête. Je pense que oui.
Invitation vous est lancée, si vous le désirez, et si vous l'acceptez,
vous
Jean-Patrick Flandé.
Vous venez avec nous en studio voilà, et on prendra un peu plus de temps pour parler de
toutes les voitures
de cinéma.
Du cinéma. Ouais. Voilà, voiture et
avec
cinéma.
Avec plaisir.
Avec bonheur.
Avec plaisir.
On vous rappelle, fondateur du film Média Consultant, et vous l'avez compris, donc spécialiste de placement de voitures, entre guillemets, dans les films. Et on voulait fêter avec vous les 60 ans de la Aston Martin DB5. Allez, un autre anniversaire est à venir sur Sud Radio. Celui-ci est un petit peu moins joyeux. On fera un point sur les 20 ans des radars automatiques. Et ben ouais, ils ont 20 ans aujourd'hui et ils se portent bien, les coquins. Oui ou non, on découvre ça dans quelques minutes.
Ils auront 20 ans le 27.
Exactement.
Ouais.
Bah alors, on en parle tout de suite, toi.
Oui,
on
n'entend
pas le 27.
Oui, 20 ans le bel âge.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron.
Happy birthday to Happy birthday to you,
Non,
le radar automatique qui fête leurs 20 ans. Ouais, bonjour Maître Jossaume.
Bonjour Maître Rémi Jossaume.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc.
Avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des Avocats. Voilà.
On a failli le faire en cœur. Hein.
Ouais, exactement. Le 27 octobre 2003, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, il était alors ministre de l'Intérieur, il inaugurait, c'était à la Ville du Bois dans les sur la RN20, le premier radar automatique. Et alors nous, on ne le fête pas, mais Rémi le fête parce qu'il est devenu riche grâce au radar automatique, Rémi. Il faut l'avouer aujourd'hui. Vous pouvez le dire, personne ne nous écoute.
Non, d'accord. Non, mais écoutez, c'est vrai qu'on va fêter, comme vous l'avez dit Jean-Luc, les 20 ans dans quelques jours. L'histoire va quand même nous rappeler plusieurs choses. La première chose, c'est que ce fut très ubuesque la mise en place des premiers radars automatiques, parce que souvenez-vous, vos confrères d'un journal auto avaient remarqué que les véhicules des ministres qui venaient inaugurer le premier radar étaient eux-mêmes en infraction. Bon, et étaient en excès de vitesse, exactement. Et puis plus sérieusement, les radars automatiques, c'est l'aboutissement d'une vraie politique de sécurité routière voulue par Jacques Chirac à l'époque, qui en 2002, le 14 juillet 2002, indique qu'il va, il va lutter contre la sécurité routière.
Ouais, ça devient des axes prioritaires du gouvernement, c'est ça.
Exactement, et à juste titre. Et c'est incroyable, entre 2002 et 2003, alors même qu'il n'y a aucun radar automatique installé, mais le seul effet d'annonce fait baisser la mortalité routière de 20% entre 2002 et 2003. Vous voyez ? Donc en fait, parfois, on peut se dire que parler aux automobilistes, parler aux Français, peut-être même leur faire peur, aura...
La peur du gendarme, la fameuse.
Exactement, était plus efficace que le radar lui-même.
Voilà. Combien de radars automatiques aujourd'hui sur nos routes ?
Bah, vous l'avez dit, Jean-Luc, plus de 4500 et quelques. Alors, sans être mauvaise langue, l'État ne le sait pas lui-même pour une raison très simple, c'est qu'il y en a toujours en permanence, vu leur nombre, qui sont soit en réparation, soit qui sont en dysfonctionnement, soit qui sont détériorés, soit qui sont dégradés, etc. etc. Mais on annonce pour fin 2023 plus de 5000 radars. Sans compter, aujourd'hui, vous avez vu la multitude des radars qui existent. En 2002, la loi prévoit des radars de vitesse, des radars de feu rouge et des radars distance de sécurité. Alors les radars de vitesse, on les a eus très rapidement, évidemment. Les radars de feu rouge, qui sont, il faut l'avouer, des radars qui n'ont jamais été contestés par les automobilistes. Enfin, en tout cas, ils ont compris vraiment leur utilité. Eux sont arrivés en 2008, donc beaucoup plus tard, finalement. Et puis, vous voyez, 20 ans plus tard, les radars qui calculent le non-respect des distances de sécurité, annoncés en 2002, ne sont toujours pas, aujourd'hui, entrés en fonction, parce que, a priori, la technologie ne le permet pas.
Oui, on a vu en Angleterre, ils sont en train de tester l'intelligence artificielle pour les radars. D'ailleurs, qui vont être capables de mesurer plein d'autres choses que juste la vitesse. Est-ce que, la vraie question que tout le monde se pose, Rémi, est-ce que ça a fait vraiment baisser la mortalité routière, les radars ?
En tout cas, au début peut-être.
Oui, alors effectivement, au début, je l'ai dit, moins 20% du fait de l'annonce. Après, oui, effectivement, quand on regarde la courbe, elle est assez parlante. On part en 2002 de 5600 morts environ à aujourd'hui 3500 morts. Alors évidemment, c'est beaucoup trop toujours, mais l'effet radar a eu nécessairement une incidence parce que on a d'abord déshumanisé le contrôle routier, et puis on a mis dans la tête de l'automobiliste et du motard d'ailleurs, puisque on a retourné les radars, on s'est rendu compte très peu de temps après, bah finalement les motards étaient pas concernés puisqu'on flashait que par l'avant. Donc on a tout retourné, quasiment tout, et on a intégré les motards. Et puis on a mis dans la tête de ces usagers, eh bien que on pouvait être contrôlé à tout instant, à tout moment, et même parfois sans le savoir, puisque certes on a ces fameux panneaux et ces applications, mais on a aussi ces radars, mobiles, voilà, qui vont se développer, qui sont eux une vraie révolution. Donc pour vraiment répondre à votre question, on peut pas dire qu'ils n'ont eu aucune incidence. Mmh. Ça serait vraiment être
de mauvaise foi.
Voilà. Ouais. Mais je pense qu'ils ont contribué, comme beaucoup d'autres choses, notamment l'idée du permis à points qui était en vigueur 10 ans encore avant, et puis on en parle très rarement, enfin en tout cas sur l'antenne de Sud de Radio, je sais qu'on en parle souvent, mais d'une manière générale, les pouvoirs publics n'en parlent jamais. Bah, c'est évidemment, et Jean-Luc ne va pas me contredire, c'est la qualité de la sécurité des véhicules. Quand on avait 18 ans, nos véhicules n'avaient pas d'airbag, n'avaient pas d'ABS, n'avaient pas de protection latérale, n'avaient pas de correcteur de trajectoire. Enfin, tout ça, aujourd'hui, on les a quasiment presque...
De base, de série, sur
les véhicules.
Ouais, donc,
et puis aussi autre chose, et l'intervention des forces de l'ordre, beaucoup plus rapide, les progrès de la médecine, ouais, etc., etc.
Et puis le prix du carburant, où les gens vous lèvent le pied, et puis la prise de conscience aussi.
On continue toujours à faire plus de kilomètres, hein, c'est ça. D'accord. Parce qu'en fait, on parle de mortalité routière, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Il faudrait parler de nombre de morts par million de kilomètres parcourus. C'est ça, en fait, la base.
Oui, exactement. Alors, donc, où ça a eu une incidence, évidemment, difficilement quantifiable. Maintenant, le problème, Laurence et Jean-Luc, c'est que depuis 2013, donc depuis 10 ans, les chiffres ne progressent quasiment plus. Voilà, parce que votre radar...
Dans le bon sens, je voulais dire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a,
oui, bien
les
sûr.
Morts, on est à peu près aux alentours de 3000 morts depuis 10 ans, et ça ne bouge plus.
Peut-être
quoi.
Parce qu'on a tout axé sur la vitesse, et qu'il y a peut-être d'autres facteurs pour faire baisser la mortalité. On va dire que sur la vitesse, on est arrivé à un seuil, et que... Même si on met 20 000 radars sur les routes, bah, ça progressera peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Alors que dans d'autres domaines, ça pourrait progresser de façon plus spectaculaire, mais ça serait moins, je vais dire le mot, tant pis, allez, ça serait moins rentable. Parce que les radars, on est d'accord, Rémi, c'est 1 milliard d'euros par an.
Oui, le radar, il rapporte de l'argent. Alors certes, il en coûte un peu, mais il en rapporte. Tous les autres infractions importantes que sont l'alcool, le stupo-volant, ça ne rapporte rien à l'État.
Téléphone.
Ça ne fait que coûter à l'État. Parce qu'il faut contrôler, faut verbaliser, faut audiencer, faut faire juger ses affaires. Donc ça coûte très cher, évidemment. Alors évidemment, ces radars, ils contrôlent pas tout ça. C'est sûr. Et 2023, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est un peu l'année révélation pour beaucoup. On prend conscience qu'il y a des gens qui roulent avec de la drogue dans l'organisme.
Sans permis.
Qui sont, voilà, sans permis, etc. etc.
Sans assurance. Et puis
alors attendez, excusez-moi, Maître Jossom, vous dites on prend conscience, mais on le sait, on a déjà conscience. C'est juste que...
Oui, mais plus ça va avec le nombre de délits de fuite, en fait.
Oui.
Les délits de fuite sont liés à ça.
Bien sûr.
Soit les gens ne sont pas en règle, soit ils ont vraiment quelque chose à se reprocher, mais à mon avis, c'est plus Monsieur Lambda qui n'est pas en règle parce qu'il n'est pas assuré, qu'il n'a pas son contrôle technique, parce qu'il a perdu les points sur son permis.
Et quelle réponse on peut donner à ça, après avoir...
La police de la route, il n'y a plus de police de la route aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a robotisé, si vous voulez, on a automatisé une police de la route qui certes donc a eu une efficacité, puisque il y a des PV, il y a des gens qui sont contrôlés, qui sont flashés, qui ont 15 millions de PV par an. Donc oui, ça fonctionne. Ça, si c'est sûr s'il y a un domaine dans lequel l'État est très performant en France, c'est les radars. Alors ça, c'est sûr que ça a très bien marché.
Oui.
Bon, pour le reste, ça marche un peu moins bien, effectivement.
Alors après, je me suis penché sur les 10 radars qui flashent le plus en France.
Ouais.
C'est 10 radars qui sont sur autoroute, les axes les moins accidentogènes.
Ah ouais.
Donc quand on nous dit c'est de la sécurité routière, bon, bah déjà quand on prend les 10 premiers, c'est pas de la sécurité routière. Ah. Voilà.
Ok.
Oui, Jean-Luc, vous avez raison.
Un peu quand même, si on est à 200 km/h sur l'autoroute, un peu quand même.
Oui, mais c'est très rare.
On nous a dit au départ, les radars, c'est pour les zones à risque, accidentogènes, etc.
Bon. Ouais. La majorité...
La majorité des flash radars, pour rebondir sur ce que dit Jean-Luc, la majorité presque écrasante des PV de radar sont PV pour des petits excès de vitesse. En fait, on vient traquer le petit excès de vitesse. Alors évidemment, les pouvoirs publics, les défenseurs de tout cela vous diront, mais oui, mais il n'y a pas de petit ou il n'y a pas de grand excès de vitesse. Bah si, il y en a, évidemment qu'il y en a. C'est pas la même chose de percuter un véhicule quand on est à 52 au lieu de 50 que de le percuter à 80 au lieu de 50,
tout
évidemment.
À fait. Bon, voilà. Maître, on va devoir vous...
Rémi, on avait prévu une suite pratique, je pense qu'on va la faire...
La semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Ce sera le 27.
Oui, non.
Non, je disais peut-être pas la semaine prochaine, les amis, parce
c'est
que je crains ne pas être en France, je crois, la semaine prochaine, mais très rapidement, avec grand plaisir.
Vous fuyez la police,
et quand vous revenez de l'extérieur, vous nous direz ce qui se passe dans les autres pays. On vous laisse... Il me reste 3 minutes pour Gwendal qui a composé 0826-333. On vous embrasse. Bon week-end et bonnes vacances. Bon, allez, hop, petite jingle et on y va.
Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir?
Salut Gwendal.
Bonjour Gwendal.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour à vous. Ça va très bien. Ça va nickel.
On vous écoute tout de suite, Gwendal. Il nous reste 4 minutes à peine.
Alors, 4 minutes, bon, ça va aller vite parce qu'en fait, c'est mon frère qui voudrait acheter une voiture en mode GTL. Donc, il a vu la Dacia.
Il y a plusieurs modèles. Il y a la Duster, la Sandero, il y a le Jogger. Donc
c'est la Sandero qui voudrait aller.
D'accord, très bien.
C'est la Sandero. Ouais. Et en fait, il m'a posé la question et je n'ai pas trop pu lui répondre. C'est par rapport à l'entretien des moteurs GPL.
Bon, alors...
Est-ce qu'il y a l'entretien dessus? Est-ce qu'il y a des trucs à changer?
Alors, il y a des trucs spécifiques à vérifier, à regarder et à faire. Mais globalement, déjà, un moteur essence, puisque c'est les moteurs essence qui sont prévus pour rouler au GPL, sera plus fiable en roulant au GPL. Donc déjà, il aura une longévité qui va être plus grande.
D'accord.
Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, il faut, vous savez, quand vous démarrez systématiquement, vous êtes en essence, la voiture passe ensuite sur GPL. Donc il y a plein de gens qui pensent que ça suffit de démarrer sur l'essence et qui roule, comme il y a une différence quand même de 1 euro aujourd'hui au niveau du prix entre l'essence et le GPL, évidemment on met du GPL dans sa voiture. Donc il ne roule jamais à l'essence. Le problème de jamais rouler à l'essence, c'est que vous avez tout le circuit d'alimentation d'essence, c'est ce que je dis souvent, qui ne va pas fonctionner. Or la pompe à essence, elle barbote dans de l'essence avec de l'éthanol dedans, c'est jamais bon le barbotage. Donc il faut de temps en temps se faire violence et faire un parcours avec un plein d'essence. Déjà pour ne pas garder de la vieille essence dans son réservoir, et puis parce que c'est bien de faire bosser un petit peu. C'est un peu comme un être humain, quoi. Si vous restez assis dans votre canapé tout le temps, le jour où on vous demandera de faire de l'exercice, vous aurez du mal. Donc là, c'est la même chose. Un petit peu d'exercice de temps en temps à l'essence. Et puis, sur certains modèles, il faut être un peu plus attentif dans la vérification du jeu aux soupapes, tous les 20 000 km. Et sur certains modèles, encore, mais ça ne concerne pas les Dacia, il faut changer les sièges de soupape au bout d'un certain kilométrage, mais en général, c'est assez long. Mais dans le cas de la Dacia, non, il n'y a pas d'entretien vraiment spécifique. Maintenant, les garages, en plus, Renault et Dacia, ils vendent du GPL depuis très longtemps, ils sont formés, donc la vérification du jeu aux soupapes à 20 000 km, ils la feront, donc votre frère peut y aller absolument sans souci, il peut se payer une Sandero GPL, qui pour moi est un des meilleurs choix actuellement qu'on peut faire. Ça coûte moins cher à rouler, c'est plus écologique, et la Sandero est une excellente voiture. Donc c'est un très bon choix.
Voilà. Mais par contre, il ne peut pas mettre plus de 5 000 euros dans la voiture, il en trouvera une à ce prix-là.
Oui, alors elle va être un peu plus ancienne, mais il va en trouver parce que dès le départ, vous savez qu'il y a eu une période quand même, on a acheté une Dacia Sandero neuve avec l'aide de l'État de 2 000 euros à l'époque pour 5 000 euros.
Ah oui, c'est vrai.
Mais par contre, il faudrait pas qu'il dépasse combien de kilomètres en gros. S'il en trouve une à 5 000 euros, il faudrait pas qu'elle ait plus de combien de kilomètres au compteur.
Il s'en fout.
C'est
une troisième voiture en fait. Okay. Il a un gros véhicule pour partir en vacances et il en a marre de prendre son Peugeot partenaire pour partir en vacances.
Et puis on l'a dit, c'est plus fiable de rouler au GPL. Donc une voiture à 200 000 km au GPL, elle ne sera pas usée.
Gwendal, merci beaucoup. Okay. On vous souhaite un bon week-end. Vous êtes où vous?
Vous aussi. Moi je suis à Boulieu-les-Annonay, moi.
Où c'est?
Boulieu-les-Annonay, c'est au nord de l'Ardèche.
Ah, c'est beau là-bas, l'Ardèche.
Vous n'avez pas eu trop de pluie sur le museau, j'espère, quand même.
Un petit peu, quand même.
C'est tombé hier, ça a tombé fort.
Il fallait.
On vous remercie très fort.
Salut Gwendal, bon week-end.
Je ne sais pas ce que je viens de dire, on vous remercie très fort. Je crois que ça ne veut rien dire du tout, mais on vous embrasse très fort, c'est peut-être mieux comme ça.
Au revoir, Gwendal.
Salut Gwendal.
Allez, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le rappel de l'actualité. Et puis juste derrière, il y aura Invino avec Alain Marty. Beaucoup de rendez-vous cet après-midi, dont un à ne pas louper, puisque Sud Radio Rugby va être au salon Losange Expo en direct de la porte de Versailles. Il y aura Rémi Dos Santos, il y aura Antoine Mazer, voilà, à 15h. Et puis vous avez le rendez-vous ce soir, évidemment, puisqu'on parle beaucoup rugby sur Sud Radio, c'est normal. La demi-finale de la Coupe du Monde à laquelle, normalement, on aurait dû être contre l'Afrique du Sud. Bah, ce sera l'Angleterre. Ce sera à partir de 21h et ce sera en direct sur Sud Radio. Merci, l'ami Jean-Luc.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Avec
alors.
Beaucoup de bonheur à chaque fois. Mais on s'appelle avant.
Oui, oui,
on se revoit.
Oui.
Oui, bon, ça m'arrange. Merci à Bastien d'avoir réalisé Demain de Maître cette émission. Et merci à Jordan de vous avoir accueilli au standard. Et quant à nous, bien, on vous souhaite un très, très beau week-end. À samedi!